J'ai donné une version à nos frères arméniens, une version en russe. For English speaking people, if you want a translation, comme on est une église internationale, alors je vous rassure, c'est pas moi qui ai traduit, hein. C'est merci Internet. Personne? Ok. Je suis très content d'être là ce matin avec vous. Et aussi avec les collégiens, alors il y en a peut-être qui sont encore là. Il y a au moins Timothée là-haut. Je vois des lycéens aussi en haut. Donc c'est une prédication qui va durer peut-être un petit peu moins longtemps que d'habitude. Les enfants, il y a quelques enfants, au moins un, puisque c'est les vacances, mais il y en a quand même au moins une qui est en bas à l'école du dimanche. Et notamment, du coup, ils ne pourront pas répondre à la petite question que je vais vous poser. C'est... Est-ce que du coup c'est... Ouais, super. Voilà. Je pense que les enfants auraient reconnu ce type de questions. Ah, c'est passé un peu vite, voilà. Ceux qui étaient à l'école maternelle il y a quelques années, vous avez peut-être fait ça, hein, ou les enseignants qui sont ici. Il faut découper ou il faut découper les images et les remettre dans le bon ordre. Ça permet d'apprendre les séquences, de savoir qu'est-ce qui commence, qu'est-ce qui, voilà, comment les choses évoluent. Alors là, qu'est-ce que vous répondriez à cet exercice de maternelle? C'est quoi la première image qu'il faudrait coller? La 4, ok. On plante une graine, ensuite la 6, parce qu'il n'y a que 2 feuilles ou 3 feuilles. La 1, la 3, voilà, super. Vous avez un bon point. Grandir, se développer, on le voit tout autour de nous, hein. Tout ce qui vit grandit, se développe. Les plantes, comme ici, les animaux, et puis nous aussi, les êtres humains. Et dans la Bible, on trouve l'idée que les chrétiens doivent aussi grandir. Que nous aussi, on doit grandir quand on est disciple de Jésus. On va lire 3 versets qui nous le rappellent. Alors, je pensais demander aux collégiens, ceux à qui j'ai demandé m'ont dit « bof ». Donc, voilà, ceux qui veulent lire, allez-y. On va commencer par un verset dans l'évangile de Jean. Jean 3, verset 3. Qu'est-ce qu'il veut lire? Bien fort. Allez. Charlotte, vas-y. Ouais. Une nouvelle naissance. Un être humain qui naît, c'est un petit bébé, un petit nourrisson. Est-ce que quelqu'un veut lire les 2 versets qui suivent? 1 Corinthiens, chapitre 3. Allez-y, spontanément, hein. Donc Paul ici nous dit que on peut être des enfants après avoir été des bébés, on peut être des enfants, avoir besoin d'une nourriture adaptée, mais qu'il y a une nourriture qui est prévue pour les plus grands. Et on finit avec Éphésiens chapitre 4. Merci. On est appelé à devenir des adultes. Paul encourage les chrétiens d'Éphèse à devenir des adultes dans la foi. Un être humain grandit. Il y a des petits bébés, il y a des enfants, des ados, des jeunes adultes, des adultes. Et nous aussi, dans notre vie chrétienne, nous devons grandir. Nous sommes appelés à grandir, à passer de l'état de bébé spirituel à celui d'adulte. Notre corps grandit d'un côté et notre vie intérieure doit grandir d'un autre côté également. Notre foi doit grandir. Alors, la question qui se pose, c'est comment est-ce qu'on grandit en tant qu'adulte? En tant qu'être humain, il suffit de manger, il suffit de dormir quand même, parce que sinon ça ne va pas. Et parce qu'on grandit beaucoup la nuit, hein, je ne sais pas si vous savez, c'est pendant la nuit que notre corps travaille. Et comment ça se passe pour grandir dans notre vie chrétienne, dans notre vie spirituelle, dans notre foi? Il y a plusieurs réponses possibles, il y a plusieurs approches possibles. On ne va pas pouvoir là, en 20 minutes, tout aborder, bien entendu. J'aimerais simplement voir un élément qui me paraît important dans la croissance spirituelle. On va lire un passage dans la Bible, on va revenir dans l'évangile de Jean, au chapitre 3, juste après la rencontre de Jésus avec Nicodème. On va lire les versets 22 à 23. Dans la version Second. Donc après cela, après avoir discuté avec Nicodème, ce chef religieux juif, Jésus vint avec ses disciples en Judée. Là, il séjournait avec eux et baptisait. Et il baptisait. Jean-Baptiste, aussi baptisé à Énon, près de Salim, parce qu'il y avait là beaucoup d'eau. Les gens s'y rendaient pour recevoir le baptême, car Jean n'avait pas encore été jeté en prison. Or, il y eut un débat entre les disciples de Jean et un juif au sujet de la purification. Ils vinrent trouver Jean et lui dirent « Rabbi, celui qui était avec toi de l'autre côté du Jourdain et à qui toi tu as rendu témoignage, voici qu'il baptise et que tous viennent à lui. » Jean répondit « Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Vous, vous m'êtes vous-même témoin que j'ai dit, moi, je ne suis pas le Christ, mais c'est devant lui que je suis envoyé. Celui qui a la mariée, c'est le marié. Mais l'ami du marié qui se tient là et qui l'écoute éprouve une grande joie à entendre le marié. Cette joie qui est la mienne est donc complète. Il faut qu'il croisse et que moi, je diminue. » Alors, question pour les collégiens, lycéens, mais pour tout le monde aussi. Hein. Qu'est-ce que vous savez de Jean-Baptiste, dont on nous parle dans ce texte? Il était? Il mangeait des sauterelles et du miel, ouais. Il avait une, c'était déjà un décroissant, hein, comme on pourrait dire aujourd'hui. Ouais, c'est ça, tout à fait. C'est un membre de la famille de Jésus, tout à fait. Ouais, il est né avant Jésus. Ils ont à peu près le même âge, mais il a quelques mois de plus que Jésus. Quel était son message? Il appelait à la repentance, au retour vers Dieu. Il préparait aussi le chemin. C'est un prophète. Il a été annoncé dans l'Ancien Testament. Des prophètes de l'Ancien Testament ont annoncé qu'un homme allait venir dans le désert pour annoncer le chemin de Dieu. Et il avait des disciples. On en connaît même un qui s'appelle André, qui ensuite est devenu disciple de Jésus. Donc, c'était quelqu'un qui avait une certaine renommée à l'époque. On pouvait considérer son style de vie comme un style de vie marginal, et c'était quelqu'un qui était radical aussi dans son message, et ça avait un écho auprès de la population. C'était quelqu'un qui était connu en Judée. Et on voit au début de ce passage que les disciples de Jean-Baptiste s'inquiètent un petit peu de ce que Jésus prend de plus en plus de place. Il est de plus en plus connu. En plus, il baptise aussi. Ça, on le rappelle assez peu souvent, que Jésus baptisait. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de concurrence entre Jésus et Jean-Baptiste? Et Jean-Baptiste va répondre à ses inquiétudes en disant qu'il y a une différence fondamentale entre lui et Jésus. Jean-Baptiste redit qu'il n'est pas le Messie, il n'est pas le Christ. Que la mission qu'il a reçue, c'est celle de préparer, d'annoncer, de sensibiliser. Et il utilise une image qui est, je trouve, très parlante, celle du mariage. Lui, il est l'ami, il est le témoin du marié. Et dans un mariage, ce n'est pas le témoin qui a le rôle principal, mais par contre, il est heureux, il se réjouit, il est pleinement dans la joie. Et il résume ça dans une sorte de punchline, on pourrait dire aujourd'hui, le verset 30, qui est ici. « Il faut que lui croisse et que moi, je diminue. » D'autres traductions disent « Il faut que son influence grandisse et que la mienne diminue. » C'est la France est courant. Jésus doit prendre de plus en plus de place et moi de moins en moins. Parole de vie. Jésus doit devenir de plus en plus grand et moi de plus en plus petit. Semeur. Jésus doit passer au premier plan et moi au second plan. Version France est courant. Vous avez compris l'idée. Hein ? Bien sûr, avant tout, ici, Jean-Baptiste parle du rôle dans le plan de salut. C'est-à-dire que lui était là pour préparer. Maintenant, il s'efface pour laisser Jésus apparaître et mener son ministère. Mais je pense que ce verset 30 de Jean, il contient dans son cœur une vérité qui est importante pour la croissance de notre vie spirituelle, pour la croissance de notre foi. Il faut que Jésus grandisse dans ma vie et que moi, je diminue. Je pense que c'est une vérité qu'on exprime souvent en tant que croyant, en tant que disciple de Jésus, quand on prie, quand on témoigne. Par exemple, quand on va utiliser l'image de Jésus doit prendre la première place ou Jésus doit prendre toute la place, sous-entendu, ce n'est pas moi qui dois être à la première place, ce n'est pas moi qui dois prendre toute la place. Ou bien quand on compare la vie chrétienne à un moyen de transport, quand on dit c'est Jésus qui doit être aux commandes de ma vie, c'est Jésus qui est à la barre, sous-entendu, ce n'est pas moi qui suis aux commandes. Il y a même une chanson pour enfants hein, qui exprime ça, vous la connaissez peut-être, mon auto, Jésus la guide. Ouais. Il faut que Jésus grandisse et que moi je diminue. Et ce principe, cette idée-là, ça fait partie de ce que moi j'appelle les paradoxes de la vie chrétienne. Alors, le paradoxe, c'est un mot qui peut sembler un peu compliqué. Un paradoxe, c'est quand on associe deux choses lorsqu'on met ensemble deux choses qui ne sont normalement pas compatibles, en tout cas en apparence. Mais c'est seulement en apparence, car en réalité, ces deux choses peuvent fonctionner ensemble si on adopte le bon point de vue. Un paradoxe, ce n'est pas forcément une contradiction. Une contradiction, c'est deux choses qui sont vraiment inconciliables. Mais un paradoxe, ça nous interpelle, mais si on adopte le bon point de vue, on se dit « Ah oui, tiens, effectivement. » Et il y en a quand même un certain nombre dans la vie chrétienne. Ici, par exemple, pour grandir, il faut que je diminue. Ou bien, Christ nous rend libres, mais en même temps, on devient esclave de Dieu. Christ nous rend libres, mais en même temps, il devient notre maître. Alors, est-ce qu'on est libre ou est-ce qu'on a un maître ? Ou bien l'affirmation de Paul en Galates, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si c'est quelqu'un d'autre qui vit à ma place, est-ce que je vis encore ? Vous voyez, ces questions-là, moi, pendant plusieurs années, quand j'étais jeune chrétien, j'ai eu du mal, en fait, à les comprendre, ces paradoxes-là. Est-ce que je suis vraiment libre si je dois avoir un maître ? Est-ce que c'est moi qui vis ou est-ce que c'est Dieu qui me téléguide comme ça et moi j'ai pas vraiment mon mot à dire. Je voyais pas trop ce que ça voulait dire. En fait, je me doutais bien qu'il y avait une solution, mais voilà. Pour moi, c'était très compliqué en fait de me dire. Voilà. Quand je lisais ces versets-là, ils me troublaient un peu. C'était d'une certaine manière pour moi. Dieu me disait renonce à qui tu es parce que qui tu es c'est pas bien mais voilà et moi je vais prendre la place et te un peu comme quand on a une voiture télécommandée quoi. Ce qui m'a permis d'avancer dans la réflexion sur ces idées là que Jésus doit grandir et que moi je dois diminuer, c'était de revenir à quelques vérités de base. La première, c'est que moi, toi, nous tous, on est des créatures créées par Dieu à son image pour avoir une relation vivante avec lui, pour avoir la vie en abondance. Ça, c'est la première vérité. La deuxième vérité, c'est que sans Jésus-Christ dans nos vies, on ne peut pas vivre ça. On ne peut pas vivre cette relation. On ne peut pas avoir cette vie en abondance. En fait, on va à la catastrophe et on va droit dans le mur. Parce que naturellement, on s'éloigne de Dieu. Naturellement, cette tendance, elle est profondément ancrée en nous. Et c'est une tendance contre laquelle on ne peut pas lutter. On peut essayer de lutter, mais on n'y arrive pas. Ce que la Bible appelle le péché. C'est ça, en fait, fondamentalement, le péché. C'est comme si vous avez une lame de métal, que vous aimeriez pousser dans un certain sens. Je regarde Alex, parce que j'étais dans son atelier il n'y a pas longtemps. Alors, j'imagine que chez lui, j'aurais pu faire ça. Une lame de métal bien solide, on va pouvoir la pousser, et ensuite, quand on enlève la pression, elle revient à sa position. Ben, c'est ça, un peu. Si on est sans Jésus dans nos vies, on peut faire tous les efforts qu'on veut pour essayer de vivre une vie en relation avec Dieu ou une vie en abondance, mais il y a cette tendance irrésistible, c'est-à-dire on ne peut pas y résister, qui est en nous. Ça, c'est la deuxième vérité. Et la troisième vérité, c'est qu'avec Jésus-Christ dans nos vies, alors là, les choses changent profondément. On a la possibilité de vivre cette relation vivante avec Dieu. Et c'est un changement qui est radical. Hein. Paul dit, par exemple, on est une nouvelle créature, mais c'est aussi un changement qui est progressif et qui prend du temps. On doit apprendre à abandonner cette tendance naturelle à nous éloigner de Dieu. Cette force qui nous pousse à nous mettre, nous, au premier plan. Et je pense que c'est le rôle du Saint-Esprit, notamment dans nos vies, de nous aider, de nous transformer. Cette lame de métal, elle, pour qu'elle puisse changer d'orientation, il va falloir la chauffer. Quand on chauffe le métal, là, on peut effectivement, vous le savez, hein, on peut modifier son orientation pour plus qu'il reprenne la position de départ. Et ce chemin-là, il faut toute une vie, en fait, pour avancer dans cette direction. Il y a des moments où on peut résister, hein, à l'action du Saint-Esprit dans nos vies. Parfois, c'est une lutte. Et il faut toute une vie pour que, comme le dit Jean-Baptiste, Jésus grandisse dans nos vies et que nous, on diminue. Dire que Jésus doit grandir dans nos vies et que nous, on doit diminuer, ça ne veut pas dire qu'on devient des marionnettes. Ça ne veut pas dire qu'on devient des pantins. Ça ne veut pas dire qu'on renonce à qui on est. Dieu nous a créés à son image, Dieu nous a créés en tant qu'humains. Mais c'est retrouver notre vraie place en tant qu'humains créés en image de Dieu. C'est faire rencontrer ma volonté, mes désirs, mes choix, mes orientations, mes pensées, mes actions, faire rencontrer ce que je fais avec la pensée de Dieu, le projet de Dieu pour moi. Projet de Dieu qu'on résume par cette loi de l'amour, aimer Dieu, aimer notre prochain. Faire grandir Jésus dans ma vie, c'est me faire influencer par lui. Aujourd'hui, on parle beaucoup des influenceurs. Et ben voilà, que Jésus soit notre influenceur numéro un, le seul influenceur de nos vies. Et ce processus-là, que Jésus grandisse et que moi je diminue, ça n'enlève rien à qui je suis. Au contraire, ça me permet d'être vraiment qui je suis. Ça n'enlève rien à mon caractère. Alors peut-être que ça va transformer certains aspects négatifs, mais ça n'enlève rien à mon caractère, à mon tempérament. Ça n'enlève rien à mes responsabilités. Cet après-midi, moi je vais aller voter. C'est bien Jean-François Lutz qui va aller voter, c'est pas Jésus qui va voter. Hein? Mais dans ce processus de choisir pour qui je vais voter pour l'élection présidentielle, il ne faut pas que ce soit les réseaux sociaux, il ne faut pas que ce soit les médias, il ne faut pas que ce soit non plus mes amis qui m'influencent, mais dire que Jésus prend plus de place, c'est de dire que je veux me faire influencer ce choix-là par la pensée de Jésus. Alors, on peut peut-être même arriver à des choix différents, mais en tout cas, que ce choix-là puisse être éclairé par la pensée de Jésus. Et le choix reste le mien. C'est pas Jésus qui choisit pour moi. Cette semaine aussi, je pense qu'on a tous été confrontés, et on l'est depuis maintenant fin février, aux horreurs dont on entend parler, indirectement, par les médias ou par des témoignages de ce qui se passe en Ukraine. Ça provoque des émotions. C'est bien nous qui ressentons ces émotions. Et ces émotions de tristesse, de colère, de honte, de peur peut-être, je veux aussi les vivre avec Jésus, mais c'est bien mes émotions. Donc que Jésus grandissent dans notre vie, ça n'enlève rien à qui on est. Et ça nous permet d'être qui on doit être, vraiment, profondément. Laissez Jésus être notre influenceur numéro un, pour que l'on vive tous les aspects de notre vie, nos émotions, nos choix. Je vous ai donné deux exemples, mais on pourrait en donner beaucoup d'autres. Avant de conclure, j'aimerais rappeler aussi, enfin évoquer un point sur cette question de la croissance qui me paraît important. Quand on parle de croissance dans la vie chrétienne, il y a un aspect qui parfois peut être un peu source de confusion. Ceux qui étaient là la dimanche dernier, vous avez entendu Jean-Haut apporter la prédication sur le thème de l'enracinement. Le fait d'être enraciné en Dieu. Aujourd'hui, je vous parle de croissance. Je pense que ça vous fait peut-être tilt chez certains. Ça vous rappelle cette idée de la vision de l'Église de Vendeuvre qui s'exprime dans cette image, dans cette formule que je vous rappelle. Une Église à l'image de la vigne, s'enraciner, grandir et porter du fruit. Donc c'est pas par hasard. Si je vous parle de croissance aujourd'hui, si Jean vous a parlé d'enracinement la semaine dernière. Et sur les questions de croissance, je pense que c'est important de distinguer la croissance du chrétien individuel et la croissance collective, communautaire de l'Église. La croissance individuelle, la vôtre, la mienne, elle a une dimension progressive et j'ai envie de dire cumulative, c'est-à-dire qu'on va accumuler des choses. Un petit peu comme les images qu'on a lues dans les versets de Paul, qui nous appellent à passer de l'état de bébé à l'état d'enfant, puis à l'état d'adulte. Alors, on avance à des rythmes différents. On a aussi des phases dans notre vie. Parfois, on a l'impression d'avancer super vite. Parfois, on a l'impression d'avancer très lentement, voire même de traverser des phases de désert spirituel. Et ça, c'est des réalités. On peut vivre des temps de crise. On en vit tous, des crises de différents, mais nous restons la même personne tout au long de ce processus. Nous accumulons de l'expérience, nous gagnons en maturité chrétienne. Alors, avec toutes les précautions, je donne une illustration sous forme de courbe. Bien entendu, c'est juste une illustration. Je ne dis pas du tout que la vie chrétienne, elle se limite... Voyez-y vraiment simplement une illustration pour comparer avec la croissance dans le cadre d'une église. Alors on peut avoir des phases comme ça, mais globalement, on a une croissance, on est toujours la même personne. La croissance spirituelle d'une église, elle est de nature différente. Pour moi, elle ressemble davantage à une courbe de ce type-là, avec beaucoup de variations. Pourquoi ? Eh bien parce qu'une église n'est pas un organisme fermé. Parce que par nature, ou alors une communauté qui est fermée et qui se dit, ben maintenant on est entre nous et on avance tous ensemble, ça s'appelle une secte, une église qui est fermée sur l'extérieur. Notre église et les églises doivent être ouvertes, accueillir tout le temps de nouvelles personnes. Des personnes qui sont en recherche, des personnes qui se tournent vers le Seigneur. Et puis une église voit des gens partir, parfois par décès, parfois pour des mutations, pour travailler ailleurs. Et donc, l'Église est forcément toujours en mouvement. Si une Église était comme un chrétien individuel, c'est-à-dire avec une courbe qui est globalement en progression, ça voudrait dire que des églises qui datent d'il y a 150 ans, 200 ans, les églises ménonites par exemple, seraient le top de la maturité, et que des toutes jeunes églises, les pauvres, eux, n'auraient absolument rien à apporter. C'est pas comme ça que fonctionne la croissance spirituelle d'une église. Et cette ouverture et le fait qu'on voit des variations plus marquées, c'est tout à fait normal et c'est positif. Il y a une dimension cyclique en fait dans la façon dont une église avance. Et c'est une différence qu'on retrouve dans la Bible. Ceux d'entre vous qui connaissent le psaume 1, vous savez à quoi est comparé celui qui suit la loi de Dieu. Il est comparé à un arbre. Un arbre qui est planté au bord d'un cours d'eau. Un arbre, il grandit. Alors, un arbre, il traverse des tempêtes. Il peut y avoir des branches cassées, il peut y avoir des moments de sécheresse, mais l'arbre grandit ou... Voilà, il y a cette image-là de l'arbre. Et est-ce que vous savez quelle est l'image qui est la plus utilisée dans la Bible pour parler du peuple d'Israël? Et aussi après, par extension, pour parler de l'Église. L'image en termes de plantes, j'entends. La vigne, exactement. Une vigne, ça ne pousse pas comme un arbre. Une vigne, chaque année, il y a un cycle qui se renouvelle. Un cycle où on va... il y a une croissance. Tous les ans, il y a une croissance. Il y a des fruits qui sont portés. Mais on est dans une logique davantage de cycle. Et je suis vraiment reconnaissant aux anciens de l'église de Vendeuvre. Quand il y a eu ce choix de cette vision, Daniel nous expliquait qu'il y avait différentes options qui étaient envisagées. L'image du chêne ou du cèdre, l'image de la vigne. Et je trouve particulièrement pertinent le choix de cette image de la vigne. Parce que c'est pour moi le reflet effectivement de la manière dont cette croissance de l'église elle se vit. Pourquoi est-ce que je dis tout ça? Parce que c'est pour moi important de ne pas confondre les deux. De ne pas attendre que l'Église grandisse comme un arbre, alors que l'Église est une vigne. De ne pas attendre que l'Église grandisse au même rythme que moi. Ça peut être, je pense, source de désillusion. Il faut accepter qu'il puisse y avoir parfois un décalage, dans un sens ou dans un autre, entre mon niveau de maturité spirituelle et puis ce que je peux distinguer globalement dans l'Église. Alors attention, je ne suis pas en train de dire qu'il faut... c'est pas une excuse hein, pour stagner ou quoi que ce soit, mais c'est simplement voilà, une différence qui me paraît important de rappeler. Oui, Jésus doit grandir dans nos vies et nous devons diminuer. Jésus doit être notre influenceur numéro un. Aujourd'hui, pour les Français, c'est une journée particulière puisque c'est le premier tour de l'élection présidentielle. Aujourd'hui, pour les chrétiens du monde entier, c'est une journée particulière. C'est le dimanche des Rameaux. C'est le début de la semaine sainte, comme l'a rappelé Arnaud, la semaine qui précède Pâques. Aujourd'hui, nous nous rappelons que Jésus est entré dans la ville de Jérusalem sous les acclamations de la foule. La même foule qui, quelques jours après, assistera à sa crucifixion. Cette semaine, pour les disciples de Jésus, pour les 12 disciples, ça a été un test très violent de leur foi. L'un va trahir, l'un va renier, beaucoup vont s'enfuir et avoir peur. Pour tous les disciples de Jésus, cette semaine, c'est un synonyme d'échec. Pourtant, pendant 3 ans, ils ont vécu avec Jésus. Ils ont appris à le connaître. Mais la crise qu'ils vivent pendant ce jeudi, ce vendredi, est d'une violence telle qu'elle les fait chuter. Je pense que c'est un rappel important pour nous dire que la croissance dans notre vie spirituelle n'est pas toujours facile, qu'elle n'est pas toujours simple. Qu'elle n'est pas un long fleuve tranquille. Mais ces mêmes disciples, après le dimanche de Pâques, après la résurrection du Christ, quel changement! Quel extraordinaire changement! Quelle radicalité! Quel courage d'annoncer l'Évangile malgré les dangers! Ils ont pleinement compris qui était Jésus. Le fait d'avoir reçu le Saint-Esprit à la Pentecôte les a encore davantage équipés pour aller proclamer l'Évangile, pour avoir de l'audace. Je pense qu'on peut dire que les disciples, les apôtres, ont laissé Jésus grandir dans leur vie tout au long de ces années, avec des moments difficiles, puis avec des moments d'exaltation. D'envoi. Je vous invite à la prière. Oui, Père, tu nous appelles à grandir dans la foi. à grandir dans notre relation avec toi. Tu nous appelles à ne pas nous contenter de la situation où nous sommes aujourd'hui, que nous soyons un jeune enfant spirituel, que nous soyons déjà un adulte. Tu nous appelles à avancer et à laisser dans nos cœurs et dans nos vies une place toujours plus importante à ton esprit, à ton Fils Jésus. Merci Père aussi parce que tu nous donnes les moyens de grandir. Ce n'est pas par nos efforts que nous y arrivons, mais c'est par l'action de ton Saint-Esprit dans nos cœurs. C'est par ta parole, c'est par nos frères et sœurs, par ce que tu mets à notre disposition que nous pouvons avancer et progresser. Merci Jésus parce que tu, par ta vie, par tes paroles, par toute ta personne, tu es pour nous un horizon vers lequel nous pouvons avancer. Tu as fixé l'exemple parfait de ce qu'est être humain, de ce qu'est être un homme parfait. Et nous pouvons avancer avec humilité, mais aussi avec confiance dans cette direction. Merci Esprit Saint, parce que c'est toi qui transforme nos cœurs, parce que c'est toi qui nous permet d'avancer et de ressembler et d'aller dans cette direction de la stature parfaite de Christ. Viens inonder nos cœurs. Rends-nous attentifs à ta parole, à ton action dans nos vies. Aide-nous à ne pas résister à ton action. Viens transformer tout ce qui doit l'être. Éclaire notre intelligence. Aide-nous à discerner dans les moments de crise comment est-ce que ces moments difficiles de nos vies peuvent être aussi des occasions de grandir. Aide-nous à voir dans ce qui peut nous apparaître à première vue comme des reculs ou des choses négatives, voir comment toi tu peux utiliser cela dans nos vies. Merci parce que nous avons aussi des exemples dans ta parole, l'exemple des apôtres qui ont progressé, qui ont connu bien des épreuves et qui sont pour nous aussi des encouragements à te laisser toute la place. Merci pour les exemples tout au long de l'histoire de l'Église. Merci pour les exemples aussi aujourd'hui encore. Aide-nous à nous encourager les uns les autres à grandir. C'est pas simplement nous face à toi, mais c'est aussi nous en tant qu'Église, en tant que communauté qui voulons grandir les uns en encourageant les autres. Quelle que soit notre situation actuelle, notre maturité actuelle. Amen.